La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Job 1, versets 1 à 5. Il y avait une fois au pays d'Ouz un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles, et il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable de l'est de la Palestine. De temps en temps, ses fils se rendaient chez lui, chez l'un ou l'autre d'entre eux, à tour de rôle, pour y faire un bon repas. Ils invitaient alors tous les leurs trois sœurs à manger et boire avec eux. Quand les festivités étaient achevées, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Il se levait tôt, le lendemain, et offrait à Dieu un service complet pour chacun d'entre eux. Car il se disait, « Mes fils ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. » C'est ainsi que Job agissait à chaque fois.
Bonjour. J'ai choisi ce passage du livre de Job qui nous occupe en ce moment parce qu'il me semble qu'il est en rapport avec ce que nous voulons vivre aujourd'hui. Nous voulons partager le repas du Seigneur et recevoir une grâce, une double grâce, à la fois le pardon de nos péchés, l'assurance, donc, d'être accepté devant Dieu, et en même temps aussi la purification de nos péchés. Pourquoi ce texte? Parce que, cela a déjà dû être souligné, Job est un type du Christ, c'est-à-dire qu'il en est un modèle, il préfigure dans son expérience quelque chose de la vie de Jésus. Il nous rappelle Jésus dans sa soumission, dans son désir d'intégrité, dans sa pureté. Et ce qui me frappe ici dans ce passage, c'est que Job offrait régulièrement pour ses enfants des holocaustes, n'est-ce pas? Jésus a offert sa vie pour nous. Job offrait des animaux sur l'autel familial pour ses enfants. Et ces animaux préfiguraient bien sûr la vie du Christ offerte pour nous sur la croix. Mais j'aimerais souligner une chose qui me semble importante dans ce qui nous est dit là, et en particulier au verset 5. Alors la version avec laquelle Larissa nous a lu le texte interprète déjà ce qui est dit dans l'original. Job intercédait donc pour ses enfants, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu, et je souligne ce qui suit, dans leur cœur. C'est intéressant ça. Job se préoccupe de savoir si ses enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. Et dans l'éventualité, dans cette éventualité, eh bien, il offre pour eux des sacrifices. Cela nous rappelle aussi que l'homme, lui, regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, Job nous renvoie à Jésus qui a offert sa propre vie pour expier, c'est-à-dire effacer les péchés des hommes, priver le mal de son pouvoir, destruction, d'anéantissement, de culpabilisation et purifier leur cœur. Vous connaissez ce célèbre verset qui dit, c'est une promesse. Si nous confessons nos péchés, vous connaissez la suite ? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et juste un peu plus haut, dans cette même épître de Jean, chapitre 1, toujours, verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Job souhaitait ardemment que son cœur soit purifié de tout péché, que le cœur de ses enfants soit purifié de toute iniquité. Il voulait pour eux le pardon, mais aussi la purification qui, il me semble, va un peu plus loin. Ce n'est pas juste une belle idée, mais c'est une action en profondeur, une action réparatrice, l'action de l'esprit. Parce que le péché, c'est quoi ? C'est une injustice, c'est une offense à Dieu, peut-être, mais c'est surtout la corruption du cœur, une aliénation profonde, une cassure intérieure, une souffrance. Les textes bibliques abondent dans ce sens. Oui, dit le prophète Jérémie, le cœur est abîmé. Il dira ça de la façon suivante, le cœur est tortueux, il est tordu, il est bosselé, il est difforme et il est mauvais, atteint par le mal. Qui peut le connaître ? C'est une parole de l'Éternel qui éprouve le cœur, qui sonde les reins. Jésus, dans la droite ligne des prophètes de l'Ancien Testament, dira « Ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Et c'est cela qui souille l'homme. Le problème, c'est le cœur. Ce n'est pas l'agir. C'est ce qui motive l'agir. Car c'est du cœur que viennent, et nous y sommes, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. D'ailleurs, Jésus, quand il apostrophe virulemment les docteurs, les scribes, les intellectuels, les chefs religieux, les prêtres de son temps, les leaders du peuple juif, leur dira « Malheur à vous, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, c'est pas très propre. Il y reste de la rapine et de l'intempérance. Vous êtes aveugle. Alors, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. » Là aussi, il se préoccupait de quoi, Jésus ? De la propreté du cœur, de la pureté de l'être intérieur. Certains diraient la psyché. Malheur à vous encore, parce que vous ressemblez à des, autre image prise par le Seigneur, des sépulcres blanchis, des tombes bien décorées, qui paraissent donc ces sépulcres beaux dehors et au-dedans sont pleins d'ossements, de morts, de toute espèce d'impureté. De même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà qui est sévère. Voilà qui est sévère. Parce que justement, la première préoccupation du Christ, lorsqu'il nous invite à sa table, c'est de nous pardonner pour nous purifier. Pour purifier ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Notre cœur, dit le texte ici. Oui, Job était vraiment un homme intègre jusqu'au tréfonds de lui-même. Nous en avons la preuve parce qu'il se souciait de l'intégrité de ses enfants. Pas seulement les belles apparences. Ça ne lui suffisait pas que ses enfants l'accompagnent à l'église. Je transpose, j'actualise. Ça ne lui suffisait pas que ses enfants participent aux classes de l'école du sabbat. Ils se préoccupaient de la pureté de leur cœur. Vous savez, le cœur, c'est effectivement le siège de la pensée. C'est pour ça que dans la version français courant, eh bien, la traduction propose « Peut-être que mes fils ont offensé Dieu dans leur pensée ». Mais pas que. C'est pas que la pensée. Le cœur, c'est aussi les sentiments. Alors, je ne vais pas vous le prouver, vous aurez l'occasion de l'étudier si vous le voulez par vous-même. Prenez tous les versets dans lesquels il est question du cœur de l'homme. Vous verrez qu'il est question, donc, que ça se rapporte aux pensées, certes, mais aussi aux sentiments, à la conscience, à l'intention, à la volonté et au désir. Le désir. Le désir est un hôte du cœur, il habite le cœur. Nombre 15, verset 39. Quand vous aurez ce signe sur vous, cette frange littéralement, un signe sur le vêtement, c'est Dieu qui le demande aux Israélites. Vous regarderez ce signe et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Donc il y a des désirs dans le cœur. Dans un psaume, le psaume 38, nous lisons la phrase suivante au verset 10. « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. » Ça veut dire « Je suis devant toi. » Je suis devant toi. Mon cœur t'est ouvert. Tu sais tout de moi. Tu connais mes pensées, mes sentiments, hein, mes intentions et mes désirs. Tous mes désirs sont devant toi. Autrement dit, tu connais mon cœur, tu sais tout de moi. C'est un verset de la lettre aux Hébreux qui dit que aucune créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert à ses yeux. Oui, tu sais tout devant moi, mes désirs sont devant toi. Et donc, le péché, s'il corrompt le cœur, s'il brise l'homme intérieurement, eh bien, il corrompt tous ces éléments-là que sont la pensée, les sentiments, la conscience, l'intention, la volonté et le désir. Tout ça est atteint par le péché. Le salut est une œuvre de restauration. Et le salut consiste justement à rétablir l'homme devant Dieu, à faire de lui un juste, en même temps qu'un être capable de rejoindre Dieu dans ses pensées, ses sentiments, sa conscience, ses intentions, sa volonté, et j'insiste, ses désirs. Dans le livre du sage, qu'on appelle l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11, nous lisons ceci, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. » Autrement dit, parce que Dieu n'a pas exécuté son jugement. « Le cœur des fils de l'homme, vous et moi, se remplit en eux du désir de faire le mal. » Vous voyez ? Le mal va corrompre jusqu'au désir de l'homme. Dieu n'a donc de cesse qu'il n'ait en fait extirpé les mauvais désirs, on parle parfois de mauvais penchants ou de mauvaises inclinations, tendances, orientations du cœur de l'homme. Le Nouveau Testament, qui confirme l'Ancien, est clair à ce sujet. Faites mourir tout ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Voyez, Dieu veut régner sur chacun de nos sentiments et sur chacun de nos désirs. C'est jusque-là que va l'action même de l'Esprit de Dieu. Or, ces choses sont arrivées, l'apôtre Paul toujours, cette fois-ci dans sa première épître aux Corinthiens, pour nous servir d'exemple, il rappelle les faits passés de l'histoire d'Israël, afin que nous n'ayons pas, nous, aujourd'hui, de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Il ne parle pas des actions, là, encore une fois, mais des désirs. Les actions découlent de ces désirs, de ce qu'il y a dans le cœur. Il y a deux catégories importantes qui sont celles du bien et du mal. On en parle déjà avant la chute, avant le péché. Le bien, le mal. Tov pour le bien, ara pour le mal. Ce sont les termes de la langue hébraïque. Après le péché, on parle toujours de bien et de mal, mais aussi de pur et d'impur. Le pur, tahor pour les hébraïsants, l'impur, tamé, après la chute. Parce que justement, il va falloir s'aligner à nouveau sur le bien et pour cela être purifié. On parle de pur et d'impur dans un contexte de péché, donc de souillure. On est dans des catégories semblables, mais dans un contexte différent. Alors, comment savoir, c'est la question, et là, si mon désir est bon, hein, ou bien, bon, bien, ou pur? Eh bien, je l'ai déjà dit, mais d'une autre façon, le désir d'un homme est bon, bien ou pur, lorsque son désir rejoint le désir de Dieu. La pureté dans le désir est atteinte lorsque le désir de l'homme et celui de Dieu s'accordent, et on pourrait même aller plus loin et se confondent. Lorsque l'homme veut ce que Dieu veut, lorsque les deux volontés, donc les deux désirs qui sous-tendent ces volontés, se rejoignent et se confondent, s'unissent l'un à l'autre. C'est ça l'objectif que Dieu se fixe pour chacun d'entre nous. De pouvoir agir en nous, parler en nous, vibrer en nous, désirer en nous et par nous. Comment savoir si notre désir est en harmonie avec celui de Dieu? C'est important ça. Si nos pensées, on pourrait y rajouter là, hein, mais là je fais un focus sur le désir. Que c'est une notion qu'on n'aborde pas souvent. Pensée, sentiment, conscience, volonté, oui, mais le désir. Le désir, je voudrais, oui, le mettre en lumière ce matin. Comment savoir si notre désir est en harmonie avec celui de Dieu? Je crois que nous avons trois critères. Dieu nous a révélé son désir, ses aspirations, et au-delà, ses attentes, n'est-ce pas? Parce qu'un désir produit aussi des attentes. À travers, je dirais, de manière générale, sa parole, appelons la Bible aujourd'hui, puisqu'elle a pris cette forme-là. Et dans la Bible, on trouve trois hauts lieux du désir de Dieu. Il y a le récit des origines, qui a été révélé à Moïse pour faire connaître le désir de Dieu pour l'humanité. Donc là, c'est très clair. Le récit des origines, en particulier ce qui a trait à la création, avant que le mal, la corruption du désir ne viennent perturber les relations entre l'homme et la femme. Donc il y a ce haut lieu-là, le récit des origines. Il y a les enseignements de Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament, hein, la figure dominante de l'Ancien Testament, condensée dans le Décalogue. Tout est condensé dans le Décalogue, évidemment. Et il y a les enseignements de Jésus, le nouveau Moïse, n'est-ce pas ? Le grand prophète annoncé déjà par Moïse en son temps. Et les enseignements de Jésus sont condensés dans le sermon sur la montagne. Alors rapidement, comment pouvons-nous savoir si notre désir s'aligne sur celui de Dieu? Eh bien, nous avons ces trois bornes, ces trois critères, le récit des origines. Un proverbe dit ceci, je le trouve très intéressant. Proverbe 11, 23, pour ceux qui prendraient des notes. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Proverbe 11, 23, le désir des justes, c'est seulement le bien. Derrière bien, il y a le mot hébreu, tov. C'est le mot qu'on retrouve dans la Genèse, chapitre 1, à 7 reprises, quand Dieu constate que c'était bon, tov, ou bien. Bon, tov, ou bien. Et à la fin, après avoir créé l'homme et la femme, c'est très bien. Tov meod, n'est-ce pas? Il insiste, c'est très bien. Donc là, c'est très bien lorsque l'humanité est en mesure de coloniser la terre. Le bien, tov, c'est ce que Dieu a établi à la création, ici. Exemple, ben c'est pas qu'un exemple, c'est ce qu'il y a. C'est le bien suprême, c'est le but même de la création, le bonheur de l'homme. Et là, pour que ce bonheur advienne, il crée un couple homme-femme. Donc, ce qui est bon, bien ou pur, c'est le couple homme-femme, le mâle et la femelle, ensemble. Et tout désir qui va à l'encontre de ce bien-là doit être repoussé, neutralisé, et tombe sous la désapprobation de Dieu. Et vous avez notamment un texte dans l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul s'insurge contre tout désir contraire à ce bien-là, le couple homme-femme. Il dira, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir. C'est le désir qui est dévié de son but, dévié de l'objectif que Dieu a fixé, à savoir le bien ou le bon tov, et donc aussi qui devient impur. Vous avez un deuxième critère, les 10 commandements. Les 10 commandements, je ne vais pas citer, mais le dernier dit ceci, tu ne convoiteras pas. Vous pouvez traduire, tu ne désireras pas certaines choses. Donc, je suis pardonné pour faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Je suis gracié pour vivre sous le régime de la grâce. Autrement dit, je dois pouvoir résister au désir de... Quel désir? Je dirais le 10e commandement implique et sous-tend les 9 autres. Tes désirs ne se porteront pas vers un autre Dieu que moi. Tu ne désireras pas me représenter de quelque façon que ce soit. C'est ça que Dieu veut finalement. C'est pour ça qu'il conclut par le « tu ne désireras pas tout ce qui est mal, impur ». Tu ne désireras pas un autre sabbat que celui de l'Éternel. Tu ne désireras pas déshonorer tes parents. Tu n'auras pas le désir de tuer, de commettre l'adultère, de voler ou de mentir. L'Esprit de Dieu vient éclairer le fond de l'homme. Ce que l'homme a tendance à vouloir cacher et dit, c'est jusqu'au désir que je vais, c'est là que j'agis, c'est ça que je veux purifier en toi. Que tu aies juste en apparence des actes de justice ne m'intéresse pas. Je veux que tu sois juste au fond de toi-même. Et puis vous avez le sermon sur la montagne, encore un autre critère, où Jésus va commencer d'emblée en disant, heureux, vous m'entendez venir là avec mes gros sabots. Heureux ceux qui ont le cœur pur dans les béatitudes, car ils verront Dieu. C'est-à-dire, je pardonne pour purifier. Je pardonne pour rénover de l'intérieur. L'homme dans ses désirs, dans ses orientations. Ô Dieu, disait David, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donne-moi d'être bien disposé, parce que jusque-là, j'avais un désir d'adultère. Maintenant, donne-moi un désir de fidélité, d'intégrité. Jésus, vous connaissez cette célèbre parole, a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, la désirer, a déjà commis adultère avec elle, dans son cœur, donc dans son désir. Vous voyez, la vie chrétienne exige en fait pour chacun d'entre nous une conversion permanente du désir. Le désir de transgression doit être changé, converti en un désir d'obéissance. Le désir d'appropriation, je prends ce qu'il y a à l'autre, hein, en un désir de partage de ce que j'ai. Le désir de manipuler doit être converti en un désir d'édifier. Le désir d'auto-exaltation, moi devant, moi au-dessus, en un désir de service. Le désir d'auto-satisfaction, je défends mes intérêts, ce qui me satisfait, en un désir de justice pour tous. Le désir de mort, en un désir de vie. Le désir d'impudicité, de luxure, de sensualité, j'en dirai pas plus, en un désir d'amour authentique. Le désir de vengeance, en un désir de pardon. Le désir d'adultère, en un désir de fidélité. Et le désir de toute puissance, en un désir de vérité. L'esprit doit constamment travailler dans le cœur de chacun d'entre nous pour que nous restions attachés au Seigneur. Parce que si cette conversion ne se réalise pas en permanence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va petit à petit se détourner de Dieu. C'est jusqu'au désir de prière, parce que naturellement, nous sommes indépendants. Nous voulons nous suffire à nous-mêmes. Un grand évangéliste a dit « Le chrétien devrait avoir soif de prier, il devrait avoir le désir de prier. » Je le cite, hein. Lorsqu'un enfant est en bonne santé, personne n'a besoin de le forcer à manger. Faire du sport, avoir une bonne circulation sanguine, une bonne santé, travailler demande que nous nourrissions suffisamment. Il en est de même avec les personnes qui ont une bonne santé spirituelle. Elles ont une soif insatiable pour la parole de Dieu et pour la prière. Un jour, une petite fille fit quelque chose de mal. Lorsque sa mère le découvrit, elle se mit à lui poser des questions. Tout de suite, le sourire disparut des lèvres de l'enfant et un voile sombre tomba sur son visage. « Maman, je n'ai pas envie de parler de ces choses-là. » C'est la même chose pour nous lorsque notre relation avec Dieu est brisée à cause du péché dans notre vie. Nous n'avons plus envie de lui parler. Nous perdons le désir de lui parler. Et ça arrive régulièrement. Donc si nous n'avons pas envie de prier aujourd'hui, c'est probablement que nous en avons vraiment besoin. Comment lutter contre ces désirs-là qui nous éloignent de Dieu? J'en ai mentionné beaucoup et la liste n'est pas exhaustive. Par exemple, comment parvenir au désir de prier quand on n'a plus le désir de prier? Comment lutter contre ça? Eh bien, réponse toute simple, en priant. Il n'y a que la volonté. Il faut mettre en marche la volonté, éclairée bien sûr par la parole de Dieu. Un témoignage authentique. Au début, je trouvais difficile, dit un chrétien, même pénible, de prier 5 minutes de temps en temps avec des jours entiers sans aucun contact avec Dieu. Ça m'allait. Puis peu à peu, j'ai appris à prier, à ressentir le besoin de prier, à désirer un contact régulier chaque matin avec lui, sans négliger de m'approcher de lui à toute heure de la journée pour lui parler de ce que j'avais sur le cœur à ce moment et de terminer ma journée en sa présence avant de m'endormir. Je suis passé du stade de prières occasionnelles et irrégulières au stade d'une vie de prières disciplinées. On a envie de lui demander, mais comment? Si je lis la suite, il nous répond en fait en priant. Alors qu'au début, en priant, je ne faisais que remplir une obligation envers Dieu, parce qu'il savait que c'était bien, donc il le faisait. Eh bien, je me rends compte à présent qu'il me serait absolument impossible de survivre une seule journée et me sentir satisfait sans m'approcher de lui en prière. Je sais aujourd'hui que la prière est un immense privilège qu'il m'a accordé, pas un devoir qu'il m'a imposé. J'ai cessé de m'approcher de lui plein de crainte, me demandant s'il est prêt à m'écouter, s'il me répondra, s'il m'entendra. Je m'approche de lui maintenant plein d'audace, comme sa parole m'invite à le faire, le cœur rempli d'attente. Voilà, conversion du désir. Et ça doit se produire dans la vie de chacun de nous. Chaque désir impur, malsain, qui n'honore pas Dieu, doit être combattu, repoussé, neutralisé par la force de la volonté, parce que Dieu nous le demande. Et non seulement nous le demande, mais le produit en nous. Je vous donnerai un cœur nouveau, c'est-à-dire un désir nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il termine en disant, je ferai que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est ça le résultat. La victoire sur le mal, et ça j'aimerais que vous le reteniez, enfin, pour moi c'est important. La victoire sur le mal, parce qu'elle est possible, dans notre sphère, à notre niveau, avec l'aide de Dieu, n'est pas complète lorsque l'homme s'abstient de faire le mal. Elle est complète lorsqu'il ne désire plus faire le mal. Et c'est ce que nous devons viser dans nos vies. C'est-à-dire que nous trouvions en nous le désir de faire le bien, bien sûr. Voilà. Ce qui nous amène à la Sainte Cène. Ce qui nous amène à la Sainte Cène, ceux qui sont à Jésus-Christ, dira Paul, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et donc l'Esprit se met à agir dans la vie de l'homme. Afin que, nous dit l'apôtre Paul, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est vrai pour tous les chrétiens. C'est-à-dire lorsqu'on soumet nos désirs à ceux du Seigneur, on est amené à ne pas faire ce qu'on désirerait ou voudrait faire. La scène nous rappelle que Jésus a pourvu à tous nos besoins et qu'il est capable de vaincre tous nos mauvais désirs. Vous savez, cette scène, c'est un repas symbolique à trois dimensions ou trois fonctions. On commémore ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Donc c'est en rapport avec le passé, l'autel, la croix. Dans le présent, on rencontre Dieu et en même temps, on annonce ce qui est à venir. Et dans sa dimension présente, eh bien, la scène évoque notre communion avec Jésus. Manger le pain, en fait, c'est intérioriser la parole de Dieu, l'assimiler ses principes. Et comme le pain est dépourvu de levain, symbole de péché, de mauvais désirs, la parole du Christ est pure et nous purifie. La parole du Christ est véritable, sans reproche, et elle nous met à même d'être acceptés par Dieu. Elle nous est donnée pour purifier nos cœurs de tout mauvais désir, nous transformer et faire de nous des sujets du royaume des cieux, des fils et des filles du roi éternel. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen.
Thank you.